lequel de Gabriel Serville, Rodolphe Alexandre, Jesse Américain ou encore Jean-Paul Ferreira sera le futur président de la collectivité territoriale de Guyane pour ces 6 prochaines années. Pour mieux comprendre les programmes des candidats et pour vous aider à valider votre choix, Radio Mayuri Campus vous propose de suivre l'émission Entrevue politique spéciale élection régionale. Présentée par Ilana, ce programme est également à retrouver en podcast sur internet et en vidéo sur les réseaux sociaux. Les élections régionales, un enjeu politique majeur pour la Guyane, à vivre sur les antennes de votre radio.
Bonsoir à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue sur Radio Mayuri Campus pour une nouvelle entrevue politique spéciale élection territoriale 2021. Nous accueillons ce soir dans nos studios Monsieur Gabriel Serville. Bienvenue dans cette émission et merci de vous joindre à nous pour discuter de développement durable, aménagement du territoire, santé, développement économique et bien d'autres thématiques encore. Alors, vous occupez déjà actuellement un mandat politique puisque vous êtes député de la première circonscription de Guyane depuis 2017. Pourquoi cette candidature à la CTG?
Bonsoir Ilana. Bonsoir Gianni. Je sais pas si t'es à l'antenne. Pourquoi je me présente à cette élection? Mais parce que j'ai envie de servir mon pays différemment, parce que ça fait 9 ans que je défends les intérêts de la Guyane auprès de l'Assemblée nationale. Ça fait 9 ans que je mène des batailles, certaines qui sont victorieuses, d'autres qui ne le sont pas toujours. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'intime conviction que la Guyane doit changer de direction et que pour changer de direction, il faut que la Guyane change les femmes et les hommes qui sont à sa tête. Voilà l'essentiel de ce qui me motive et j'espère qu'on aura l'occasion de développer ce point-là dans le courant de l'entretien.
Alors, vous êtes membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Oui. On parle très peu de changement climatique en Guyane. J'aurais aimé vous poser quelques questions sur les préconisations en matière de développement durable que vous auriez pour les années à venir.
Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'il s'est agi d'adapter le droit minier au code de l'environnement. D'ailleurs, cela ne m'a pas fait que des amis parmi les opérateurs miniers de Guyane parce que je mettais un accent particulier sur la protection de l'environnement, sur la protection des êtres humains qui fréquentent cette forêt guyanaise. Et il est vrai que j'ai souvent insisté pour que dans la loi, on organise l'écoute attentive de la population, pour que on réorganise la consultation publique. Je me suis beaucoup positionné également lorsqu'on a évoqué le projet Montagne d'Or, notamment contre l'utilisation du cyanure sur ce site d'extraction à ciel ouvert. J'avais réussi à l'Assemblée nationale à réunir autour de moi les 8 groupes de l'Assemblée pour aller vers une préconisation d'interdiction du cyanure, comme la Hongrie l'a fait, comme l'Allemagne l'a fait, chacun en s'entend. Et il se trouve que effectivement, le gouvernement français s'est montré très très frileux, très réticent à l'égard de cette problématique. Cela étant dit, je considère que la Guyane n'est pas à l'abri du réchauffement climatique qui menace la Terre entière. Et les scientifiques ont même déjà démontré que nous sommes de part et d'autre de l'équateur autour d'une bande de terre qui va subir de plein fouet et de façon prioritaire les conséquences de ce réchauffement. Alors, il est vrai que la Guyane, avec 300 000 habitants ou 60 000 habitants, comme je préfère l'imaginer, à elle seule ne pourra pas faire grand-chose pour lutter contre ce réchauffement, mais je considère que on va pratiquer la politique du colibri, aussi minime soit notre investissement, et bien il va falloir le porter. Et puis surtout, c'est prévenir les conséquences de ce réchauffement sur le mode d'habiter, sur le mode de circulation, sur la manière d'aménager le territoire. Je me dis qu'on ne peut pas faire abstraction de cette nécessité de se projeter dans les 40, 50, 70 années à venir.
Alors justement, vous avez évoqué vos engagements à l'Assemblée nationale. Quels sont selon vous les grands projets que vous avez portés pour la Guyane?
Alors, je ne pourrais pas dire que j'ai porté un grand projet pour la Guyane, puisque, vous savez, je ne maîtrise pas l'agenda de l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui a cette maîtrise, qui apporte les projets de loi portés par le gouvernement ou les propositions de loi qui sont portées par les collègues députés. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que à chaque fois que cela était nécessaire, je me suis positionné pour pouvoir défendre les intérêts de la Guyane. Quand on a parlé d'éducation, quand on a parlé de l'amélioration de la santé, quand on parle d'aménagement du territoire, quand on parle simplement des équipements structurants dont la Guyane a besoin, de tous ces combats, j'ai été présent pour faire entendre la voix singulière de la Guyane, puisque je me plais à dire que lorsque nous votons les lois à l'Assemblée, nous votons des lois qui tiennent compte de certaines caractéristiques, de certaines vérités qui sont celles de la France hexagonale. C'est son économie, c'est sa population, c'est sa géopolitique, sa géostratégie, son climat, c'est son histoire également. Et lorsque l'on compare les mêmes caractéristiques en Guyane, eh bien on se rend bien compte à quel point elles sont différentes. Et donc on est en permanence sur un jeu d'équilibre à demander que les lois puissent subir un certain nombre d'adaptations pour qu'elles soient efficientes au bénéfice des habitants de la Guyane. Ça n'est pas facile, mais j'ai toujours été présent. Si vous regardez l'agenda de l'Assemblée nationale, vous verrez que sans m'envoyer des fleurs, que j'étais souvent le député le plus présent, le plus actif, le plus impliqué. Donc ça veut dire que j'étais là, j'ai fait le job, comme je me plais à le dire. Même si je ne suis pas toujours satisfait, mais il y a quand même des points sur lesquels on a pu avancer. Moi, je prends comme exemple ce qui s'est passé entre 2017 et 2019 quand je me suis battu pour faire abonder la ligne budgétaire unique qui permet de financer le logement social d'environ 100 millions d'euros pour construire le logement qui manque en Guyane. Et puis j'étais très déçu de constater que sur les 100 millions d'euros, on n'a pu consommer que 30 millions. C'est-à-dire qu'il y a 70 millions d'euros qui nous étaient promis, qu'on n'a pas pu récupérer, qu'on n'a pas pu utiliser. Et ça pour plein de raisons.
Parce qu'ils n'ont pas été dépensés, du coup ?
Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas été dépensés, c'est le projet, enfin la méthode, c'est qu'on vous dit que vous avez un droit de tirage de 100 millions d'euros, mais après vous devez présenter les factures, on vous rembourse. C'est-à-dire on vous donne pas l'argent, mais c'est sur le remboursement. Donc il faut pouvoir dépenser l'argent pour être remboursé. Mais on ne peut pas le dépenser si au départ il y a tous les freins que l'on a imaginés, qu'on a identifiés, notamment l'impossibilité d'accéder à un foncier aménagé pour ceux qui veulent construire des logements. C'est-à-dire qu'il y a un combat à plusieurs niveaux, il y a le niveau national mais aussi le niveau local. Et lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, eh bien, c'est aussi ce genre de problème auquel nous sommes confrontés et qui font que n'ayant pas suffisamment de foncier aménagé, on ne peut pas construire suffisamment de logements, et quand on ne construit pas suffisamment de logements, eh bien on met toute la population qui est en quête de logement dans des situations extrêmement compliquées, extrêmement difficiles. Et c'est aussi ça qui motive le choix que j'ai fait d'être candidat à cette élection, parce que je dis tous les jours que la Guyane manque de tout. La Guyane a besoin de plus d'argent, la Guyane a besoin de maîtriser son foncier, la Guyane a aussi besoin d'avoir un cadre statutaire qui soit conforme à ses aspirations et conforme à ses réalités, mais je pense que ce qui nous fait le plus défaut en ce moment, c'est la posture. C'est d'avoir des femmes et des hommes à la tête de ce territoire qui est la posture de responsabilité pour que la parole politique que nous portons soit une parole de poids, que ça soit une parole qui ait du crédit. Alors, je regrette qu'effectivement aujourd'hui, j'ai l'impression que la parole que porte la classe politique au niveau national, voire au niveau international, est une parole qui est légère. Elle est frileuse, elle est fébrile, elle manque de poids parce qu'il y a trop de personnes qui souvent ont confondu l'intérêt personnel et l'intérêt général. Et moi je crois qu'il est de bon temps qu'on puisse se repositionner et faire en sorte que ce territoire soit géré par des femmes et des hommes qui ont envie vraiment d'avancer suivant l'intérêt général et pas en fonction de leurs petits intérêts personnels.
Alors on va revenir sur la question du foncier que vous avez évoqué, puisque c'est l'un des grands combats aujourd'hui pour la Guyane. Lors des accords de Guyane de 2017, l'État s'était engagé à céder 250 000 hectares de foncier. Est-ce que vous savez où en est ce dossier ?
Alors c'était 250 000 hectares de foncier aux collectivités, 400 000 hectares pour les populations autochtones. Je sais que pour les collectivités, c'est un dossier qui avance. Il n'avance pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, parce que l'État ne va pas rétrocéder comme ça le foncier si on ne lui dit pas quels sont les projets qui vont être portés par ce foncier rétrocédé. Néanmoins, pour les 400 000 hectares de terre qui doivent être rétrocédés aux populations autochtones, j'avais cru comprendre que Bercy expliquait que la propriété privée est validée par la Constitution et que dans le cas qui nous intéresse, il s'agirait de mettre en place des zones de droit d'usage collectif qui ne rentrent pas directement en syntonisation avec le droit français, et que à ce niveau-là, il y a une difficulté à trouver les articulations juridiques qui permettraient que ces 400 000 hectares soient rétrocédés aussi rapidement que nous on l'aurait souhaité. Mais cela étant dit, je ne perds pas espoir que la solution soit rapide. rapidement trouvée par les experts, parce qu'il y a des experts qui maîtrisent le droit, qui maîtrisent...
Des experts guyanais ?
Ah, il y a des experts guyanais qui le maîtrisent. Ils sont pas forcément tous vivants en Guyane, mais il y en a deux ou trois que je connais à travers le monde et qui sont en train de se pencher sur cette question. Et puis à Bercy également, il y a un certain nombre d'experts qui seraient capables de trouver la réponse juridique qu'il faut apporter à cette problématique pour que la rétrocession puisse se faire dans des délais respectables et qu'on n'attende pas la prochaine manifestation de rue pour se dire mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi ce challenge.
Merci pour vos réponses. Je vais donc maintenant donner la parole à Janice Esto, donc enseignante et membre de la Jeune Chambre internationale de la ville de Cayenne, qui va vous interroger sur des questions liées à l'aménagement du territoire.
Merci Lana, bonsoir Monsieur Serville. Rapidement pour rebondir sur le foncier, vous avez parlé justement de projet. Est-ce que justement votre équipe a déjà réfléchi à ces projets? Et ensuite je vais vous poser une question toujours sur le foncier, sur la mise en place de la SAFER. C'était également une des conditions, elle résulte des accords de Guyane. Ça fait longtemps que les agriculteurs l'attendaient. Est-ce que vous pensez que justement c'est une solution à ce problème du foncier agricole qui est un peu dispatché comme ça à des personnes qui en profitent pour le détourner et l'utiliser pour du foncier bâti? Je vous repose la question, est-ce que vous avez réfléchi à ces projets justement pour débloquer cette situation du foncier?
Il y a beaucoup de malice dans la question de Janie. Effectivement, je l'entends, parce que nous sommes tous à nous poser les mêmes questions. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? L'autre jour, j'ai tenté de repositionner la question globale de la Guyane, qui est une question simple. On veut gouverner le pays autrement. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est savoir à qui s'adressent les différents projets que nous allons porter. Et il y a une grande difficulté aujourd'hui en Guyane, c'est que nous ne savons pas combien nous sommes, nous ne savons pas exactement qui nous sommes, nous ne savons pas où nous sommes. C'est la raison pour laquelle je dis à la Guyane tout entière que la première démarche que nous allons initier lorsque nous serons aux commandes de cette collectivité, ça sera d'exiger de la part de l'État et de la part de l'INSEE qu'ils s'organisent pour pouvoir faire une meilleure quantification de la démographie de la Guyane. Est-ce que nous sommes 298 000? Est-ce que nous sommes 340 000? Moi, je pense que nous serions plutôt de l'ordre de 360 à 370 000 personnes vivant sur ce territoire. Et si on prend cette base comme base de référence, eh bien, ça va tout changer. Alors, quand on nous parle des projets que nous portons, mais tous les projets que nous portons ne peuvent qu'être intimement associés au domaine de compétences de la CTG. C'est des projets de mettre en place des équipements structurants, c'est faire des routes, c'est faire des aérodromes là où il y en a besoin, c'est construire des collèges et des lycées, c'est construire des centres de prévention santé délocalisés ou alors entretenir ceux-là qui existent déjà. C'est également développer la culture, c'est développer le sport, l'apprentissage, la formation tout au long de la vie, enfin pas refaire la liste exhaustive des compétences de la CTG, mais il n'empêche que lorsque on entend ces compétences, on se dit mais là en réalité on s'adresse à des humains, on s'adresse à des femmes, à des hommes et à des enfants. Et la question centrale que je pose, c'est comment on fait pour définir la meilleure politique si on ne sait pas pour quelle personne et pour combien de personnes elle s'adresse. Et donc, je dis, première chose à faire, faire une quantification, savoir combien nous sommes, où nous sommes et comment nous sommes. Et deuxième étape, il y a le schéma d'aménagement régional qui est le document essentiel qui indique comment et sur quelle durée, avec quels outils, nous allons pouvoir avancer vers un aménagement optimal du territoire. Mais ce que j'ai vu dans le SAR qui est en vigueur actuellement peut faire froid dans le dos parce que justement il ne répond pas du tout aux attentes des agriculteurs. Je crois qu'il est essentiel et fondamental que les politiques se disent une fois pour toutes qu'ils ne peuvent pas être omniscients, omnipotents, omniprésents, qu'ils n'ont pas la science infuse surtout et qu'à un moment donné il faut qu'ils soient capables de faire la place aux experts. Alors nous portons une vision, nous portons un projet, mais lorsqu'il va falloir aller dans le cœur de la rédaction du projet qui sera nécessaire pour la Guyane une fois que nous aurons défini le cap, eh bien, il faudra laisser parler les experts. Et en l'occurrence, on parle d'agriculture. Tous les agriculteurs me disent de façon généralisée que le cadre imposé par le schéma d'aménagement régional est un cadre qui est trop restrictif, qui est trop contraignant. On ne peut pas imaginer la Guyane passer de 15% de souveraineté alimentaire. Enfin, je ne sais pas si quand on est à 15%, on n'est pas encore à l'état de souveraineté alimentaire. C'est 15% de production de ce que nous consommons à 40-50% si on ne prend pas à la base et à la racine les problèmes qu'engendre ce schéma d'aménagement régional. Donc ça, ce sont des sujets qui doivent pas être tabous, sur lesquels on va devoir se pencher très sérieusement dès notre arrivée avec les experts, avec ceux qui maîtrisent le sujet, avec la SAFER, parce que c'est vrai que ça fait des années que la Guyane se battait pour avoir cette entité qui va permettre d'aménager, de gérer, de réguler le terrain aménagé pour pouvoir le mettre à disposition de nos agriculteurs. Il ne faut pas que ça demeure simplement un vœu pieux. Il ne faut pas que cette idée-là reste dans les tiroirs. Il faut vraiment qu'on ait plus une dynamique, parce que j'observe par ailleurs que très souvent nous organisons des grands symposiums, des grands colloques qui sur le logement, qui sur l'agriculture, mais ce qui me désole, c'est de constater que entre deux symposiums, entre deux colloques, eh bien on reprend exactement les mêmes rengaines, on fait les mêmes constats avec les mêmes préconisations bien évidemment, mais que à la prochaine séquence, eh bien on va encore faire les mêmes constats et on va ressortir les mêmes préconisations. Je crois qu'à un moment donné, il faut pouvoir se dire OK, on arrête de faire des préconisations et puis on essayer de voir comment on peut mettre en branle les préconisations qui ont été arrêtées lors de la dernière réflexion que nous avons collectivement menée. C'est le travail qu'il faut faire, il n'y a pas de secret. Il y a aussi un travail à faire au niveau de la Commission européenne, au niveau du gouvernement, parce qu'un jeune agriculteur qui s'installe en France hexagonale, on lui donne une exploitation clé en main. Un jeune agriculteur qui veut s'installer en Guyane, on lui donne une forêt clé en main. La forêt clé en main, ben, il faut la déboiser, il faut la nettoyer, il faut la creuser, il faut la préparer, il faut préparer le terrain. Et on se rend compte que les conditions d'accompagnement des agriculteurs qui font sens sur le territoire de France hexagonale ne font jamais sens sur le territoire de la Guyane, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas dans les mêmes contextes physiques et géographiques. Donc c'est tous ces combats-là qu'il faut mener, mais pour pouvoir les faire aboutir, encore je dis qu'il faut qu'à la tête de cette collectivité, il y ait des femmes et des hommes dont la parole soit crédible, pas des personnes qui se cachent, pas des personnes qui louvoient, pas des personnes qui disent blanc un jour et qui vont dire noir le lendemain ou inversement, mais des gens qui sont déterminés, qui sont convaincus de la justesse de leur position et qui pourraient tenir tête au gouvernement, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de secret. Les gens qui font croire que le gouvernement il sera gentil avec la Guyane, eh bien ils trompent les Guyanais, parce que je ne connais aucun gouvernement qui soit gentil avec qui que ce soit. On nous rappelle souvent qu'en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Le gouvernement a des intérêts en Guyane. La France a des intérêts en Guyane. Des fois, nous prenons des positions qui pourraient l'ébranler sur ses fondamentaux. On voit comment la relation entre la France et les pays d'Afrique subsaharienne sont de plus en plus tendues. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la France va devoir se replier. Et les positions de repli les plus avantageuses dont elle pourrait bénéficier, c'est de rester dans le canal du Mozambique, avec Mayotte et La Réunion, mais c'est surtout de profiter de cette terre guyanaise en Amérique du Sud que toutes les grandes puissances envient à la France par rapport à sa position géographique, mais qui est aussi une forte et belle position géostratégique, et puis également par rapport à toutes les ressources dont dispose la Guyane. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut vraiment se battre pour que le gouvernement comprenne que les Guyanais ont besoin de développement. Il faut se battre pour que le gouvernement comprenne que nous ne sommes pas en train de mendier, on n'est pas en train de quémander, on n'est pas en train de tendre la main pour demander quelque chose qui ne nous reviendrait pas, mais on demande simplement que la devise liberté, égalité, fraternité soit également appliquée sur le territoire de la Guyane. Qu'on n'accepte pas qu'il y ait 12 000 enfants qui ne soient pas scolarisés. Qu'on n'accepte pas, quelle que soit l'origine de la pauvreté, eh bien, qu'il y ait 50% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Qu'on n'accepte pas que les personnes ne puissent pas se faire soigner lorsqu'elles font un AVC parce qu'il n'y a pas de neurologue sur le territoire de la Guyane. Il y a des situations telles que celles-là avec lesquelles on s'est accoutumé. On a fini par trouver ça presque normal. Eh bien, nous disons que non, il faut se battre pour qu'il y ait zéro enfant non scolarisé, que tous les Guyanais puissent accéder à une santé d'extrême qualité, pour que ceux qui en ont les moyens puissent accéder à un logement digne, décent, et que ceux qui n'ont pas les moyens soient accompagnés comme il se doit, parce qu'on est une société faite d'équité, faite de fraternité, et faite de ce désir, comme nous le répétons souvent, de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Parce que nous avons déjà l'excellence chez nous, simplement il faut prendre le temps de le dire à la face du monde.
Vous avez évoqué à plusieurs reprises un constat d'inadaptation des normes qui est également valable pour le secteur du logement en Guyane, qui est un secteur extrêmement important, qui va être très porteur dans les années à venir. Qu'est-ce que vous proposez de mettre en place pour adapter les normes ?
Déjà, je propose qu'on tape du poing sur la table pour dire qu'on n'est pas d'accord que ce soit les mêmes normes qui soient appliquées en Guyane. Je vous disais tout à l'heure, moi je suis un généraliste et je donne des idées. Mais après, les techniciens, les experts, il va falloir qu'ils travaillent. Quand je discute avec les acteurs du BTP, eh bien, ils me disent qu'il y a des normes qui ne sont pas du tout adaptées à la Guyane. Les normes.
Ça donne lieu effectivement à des projets complètement en décalage avec la réalité guyanaise.
Ben, on prend le cas des réglementations thermiques. Lorsque l'Union européenne créer des directives pour pouvoir obliger à utiliser certains matériaux de construction qui puissent résister à des écarts, à des variations de température qui vont de plus 40 degrés à moins 40 degrés, ça peut faire sens en France hexagonale. On sait bien qu'en Guyane, en général, la température elle oscille entre 22 degrés quand il fait très très froid et qu'on est obligé de porter le pull avec un col roulé ici en Guyane, et puis ça peut monter à 35, peut-être 38 dans le pire des cas. Bon, on a connu des pointes, mais c'était des situations exceptionnelles. Et quand on oblige les acteurs du BTP à respecter ces normes qui sont des normes issues du contexte européen, eh bien ils nous disent que ça entraîne des surcoûts tels que lorsqu'ils ont construit 3 maisons, ils auraient pu en construire 4. C'est-à-dire que lorsqu'on a construit 3000, on aurait pu en construire 4000. Donc avec moins de normes, avec moins de surcoûts, on aurait pu plus facilement répondre aux aspirations et aux besoins de la population. Alors je cite cette réglementation thermique, mais il y en a plein d'autres que l'on pourrait citer pour expliquer pour quelles raisons on se doit de réfléchir à cette problématique pour y apporter les bonnes réponses.
Alors, on va enchaîner sur la thématique de la santé. Puisque, effectivement, en fait, vous nous sortez tout droit de la cellule interministérielle de crise. Est-ce que vous avez des nouvelles à nous apporter sur la thématique ? Quels sont les débats qui ont été lancés au cours de cette réunion ?
Alors, c'est un ordre du jour qui est très, très convenu, où on évoque à chaque fois le bilan de la semaine, le taux d'incidence, savoir si la maladie avance ou si elle recule. Et puis, une deuxième partie où on parle de vaccination, comment se déroule la campagne de vaccination. Et puis, la troisième partie où le préfet présente ses préconisations pour pouvoir mieux lutter contre la circulation du virus. Et très souvent, les préconisations de monsieur le préfet se transforment très rapidement en décisions. Moi, ce que je regrette, comme je l'ai souvent dit, c'est le fait d'être plutôt seul, élu, alors que nous sommes les 4 parlementaires invités, plus le président de la CTG, plus le président de l'Association des maires, qui était là aujourd'hui. Mais plus souvent que rarement, je me sens un petit peu isolé et seul. Aujourd'hui, le préfet, il a pris la décision d'alléger un petit peu les dispositifs, de passer les jauges de rassemblement de 6 à 10. Alors, vous me direz que c'est pas avec ça qu'on va aller décrocher la lune, mais c'est toujours 4 de plus. Il a pris la décision d'alléger aussi le fonctionnement des lieux de culte, de permettre la pratique sportive en plein air, parce que tout ça faisait l'objet d'une restriction pure et dure. Et puis, il y a un quatrième point qui a été évoqué et qui m'échappe, parce que je n'ai pas les notes sous les yeux, mais ça me reviendra tout à l'heure. Moi, ce que j'ai dit à monsieur le préfet, c'est que si il considère que la situation s'améliore, même si on n'est pas au bout de nos peines, il faudrait que on allège les dispositifs restrictifs qui ont été mis en place pour les Guyanais qui voyagent en direction de la France hexagonale. On a eu l'occasion de faire la comparaison avec ce qui est exigé des Français qui quittent le Brésil pour se rendre à Paris. Le Brésil, là où circule de manière très active le variant brésilien, comme son nom l'indique, et il me semble pas que les Français, ces Français-là, soient soumis aux mêmes contraintes que celles qu'on impose aux Guyanais qui voyagent vers la France. Alors le préfet m'a répondu que c'est son homologue de Paris qui prend la décision de serrer les vis, mais j'ai rappelé que c'est quand même lui qui est sur le terrain guyanais avec nous, qui voit l'évolution de la situation et qui sera en capacité de dire à son homologue parisien que finalement la situation n'est pas si catastrophique que cela. Quand on entend parler les gens sur les médias nationaux, on a l'impression que la Guyane est en train de crever, qu'il y a des cadavres qui s'amoncellent partout dans tous les coins de rue, alors qu'en réalité ça n'est pas ça le problème. Alors je l'ai souvent dit, le vrai problème de gestion de cette crise sanitaire réside dans l'incapacité qu'a démontré l'ARS à pouvoir anticiper. Depuis mars 2020, je n'ai eu de cesse de dire, il faut une stratégie qui soit véritablement adaptée à la configuration de la Guyane, parce que c'est comme ce que je disais précédemment pour les lois et règlements, la Guyane ce n'est pas la France, même si la Guyane appartient à la République française. Donc une stratégie qui soit adaptée véritablement à ce que nous sommes, et puis deuxièmement une capacité à anticiper les événements, à anticiper le nombre de lits. Lorsque vous entendez le préfet et la DG de l'ARS parler des dispositifs arrêtés, ils vous disent régulièrement que nous voulons sauver des vies. Mais je ne connais personne en Guyane qui n'a pas envie de sauver des vies. Nous voulons sauver des vies parce que simplement, nous ne savons pas comment nous pourrions réagir si jamais nous devrions faire face à un afflux massif de personnes malades. Alors qu'on était à peine à 35 personnes hospitalisées en réanimation Covid, eh bien on a vu des évacuations sanitaires vers la Martinique. Tandis que l'année dernière, il y avait un plan de charge, il y avait une montée en charge qui prévoyait qu'on passerait de 11 lits tout à fait au début de la crise à 66 lits au plus fort de la crise. On n'a jamais atteint ce quota de 66 lits. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois qu'il y a de soubresauts, à chaque fois qu'on voit que la crise s'amplifie, ben le premier réflexe, c'est de dire que vous êtes des enfants gâtés, vous avez relâché votre comportement, vous serez punis, nous allons envoyer nos doses à l'extérieur, etc. Et puis on va faire des évacuations sanitaires en direction de la Martinique ou de la Guadeloupe, parce que c'est vrai que c'est difficile d'en faire en direction de Paris. Mais je pense que si on avait traité la santé en Guyane de façon globale, avec beaucoup plus d'aplomb, avec beaucoup plus d'anticipation, je suis convaincu qu'on aurait pu gérer autrement cette crise sanitaire. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que l'année dernière, au mois d'août 2020, la DG de l'ARS avait annoncé qu'elle allait recruter 249 personnels de santé issus de pays ne relevant pas directement de l'Union européenne, donc des personnels étrangers. Et les appels ont été faits. Il y a eu, je crois, plus de 3000 candidatures. Et nous avait promis qu'en fin décembre 2020, que les recrutements auraient été opérés. Et il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, alors régulièrement en réunion de CIC du jeudi, je pose la question de savoir où est-ce que nous en sommes. Régulièrement, on me dit c'est en cours. Et j'ai découvert jeudi dernier qu'on avait recruté, je crois, à peine 28 personnes pour le centre hospitalier de Cayenne et une dizaine pour le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni. Quand vous faites l'addition, ça fait jamais que 38. Sur les 249 qui avaient été annoncés, on est très très loin du compte. Et donc ça permet aussi de comprendre pour quelles raisons nous avons autant de difficultés à soigner nos malades. Donc je pense que véritablement il y aura quelque chose à faire pour que la parole engagée soit véritablement tenue par ces fonctionnaires qui portent quand même sur les épaules une lourde responsabilité.
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement à nos auditeurs quelle est la capacité aujourd'hui des services de santé pour l'accueil des malades en réanimation Covid?
Alors, je vais vous suggérer d'éviter la DG de l'ARS parce qu'il n'y a qu'elle qui pourrait vous donner cette information avec la précision nécessaire. Parce que je pourrais avancer un nombre. Aujourd'hui, on a entendu dire qu'il y a 48 places disponibles et qu'il y aurait 48 places 48 lits armés, pardon, et que en ce moment, il y en a 8 qui seraient disponibles pour accueillir d'éventuels malades, mais entre les 40 restants, il y a des malades Covid, il y a des malades non-Covid, enfin, ça n'a jamais été très clair pour nous qui participons aux réunions, et je crois que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre très bien comment cela se passe, et même lorsque nous avons fait la visite de terrain, entre les lits armés et les lits non-armés, j'ai l'impression qu'il y a eu une belle embrouille pour que les politiques ne sache pas véritablement quelle est la nature même de la problématique qui se pose concernant ces lits. Mais cela étant, ce que nous constatons, c'est que on n'est jamais arrivé au nombre de 66 tel qu'il avait été annoncé l'année dernière par les services de l'ARS et que régulièrement, eh bien, on a eu droit à des évacuations sanitaires vers la Martinique. Ça veut dire en clair que les services n'ont pas réussi le challenge qui s'était proposé.
Je redonne donc la parole à Gianni pour discuter d'infrastructures sanitaires.
Oui, justement, on vous a vu aux côtés des syndicats et vous lancer dans la bataille il y a quelques années. Enfin, c'était plus ou moins récent, hein, lorsque justement les membres des syndicats et les personnels de santé étaient en première ligne. On se rappelle de la restructuration du CHC. Entre autres, et on peut vous poser la question, est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi d'avoir Patricia Saïd, représentante de l'UTG Santé, à vos côtés? Est-ce le prolongement de votre engagement? Mais surtout, la question, c'est qu'est-ce que votre équipe compte faire pour essayer consolider les plateaux techniques qu'on a en Guyane, proposer peut-être d'autres solutions, et puis... en ce qui concerne les infrastructures de santé en Guyane. Et l'amélioration du système de santé.
Alors c'est vrai que c'est un combat pour l'amélioration de la santé, c'est un combat de très longue date. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il y a certains élus qui l'ont porté avant moi, des parlementaires, députés, sénateurs, des présidents de collectivités. Je pense à Monsieur Élie Castor notamment, qui avait engagé une grande réflexion sur comment mieux soigner les personnes qui sont dans les sites isolés, dans les communes isolées de la capitale et qui n'ont pas accès au quotidien à des personnels de santé pour pouvoir leur prodiguer les premiers soins dont ils ont besoin. Je crois qu'à un moment donné, il y a une cassure parce que nous n'avons pas été en capacité véritablement de poursuivre le travail qui a été engagé par nos prédécesseurs. Pour revenir à une époque plus contemporaine, je rappelle que en janvier 2019, à l'arrivée de Madame de Borde, on a eu l'occasion de parler de la construction d'un CHU sur le territoire de la Guyane et c'était elle qui m'avait dit que le CHU pour elle n'est pas un totem. C'est une manière de dire qu'on ne va pas tourner autour pendant longtemps parce que ça n'était pas dans sa feuille de route. Et là, j'ai vite compris que le combat avec elle allait être un combat épique pour l'obliger à considérer que sans être un totem, sans être une fée en soi, sans être la panacée à tous les maux, mais le CHRU, dans sa constitution, dans sa capacité à fédérer la recherche, à fédérer l'enseignement, à fédérer la coopération régionale pour travailler notamment sur les maladies endémiques tropicales, équatoriales, devait être le fer de lance du développement de la santé sur le territoire de la Guyane. Alors quand nous parlions de CHU, on ne parlait pas nécessairement d'un bloc, d'un bâtiment avec des services, mais on parlait d'une capacité à organiser la santé en Guyane pour avoir les médecins, pour avoir les personnels de santé qualifiés, pour avoir les plateaux techniques scientifiques pour faire des travaux de recherche. C'est tout ça qu'il y avait dans le concept de CHU que nous portions à l'époque. Et je suis désolé de dire que les responsables des services de l'État et les responsables des services sanitaires en Guyane n'ont pas toujours été à l'écoute des revendications qui étaient portées, qui par les syndicats, qui par les élus eux-mêmes. Et c'est essentiellement pour cette raison que je m'étais engagé dans le combat mené par le syndicat UTG Santé, mais notamment il y avait d'autres combats qui avaient précédé, où depuis 2001, UTG Santé, avec d'autres syndicats, avait réclamé la création d'un CHU sur le territoire de la Guyane. Ce projet-là avait fait l'objet d'un classement vertical parce que par moment on peut s'interroger sur les bonnes intentions de ceux qui nous gouvernent. Et puis il a refait surface à l'occasion des mouvements de mars-avril 2017. Et comme par hasard, aujourd'hui je n'entends plus la DG de l'ARS présenter le CHU comme étant un totem. Je crois au contraire qu'elle a l'air de s'être vraiment imprégnée de la nécessité d'aller vers cette structure. Et je ne puis dire que tant mieux. C'est tant mieux si elle a fini par le comprendre. Et donc la présence de Madame Patricia Saïd à mes côtés, dont on connaît l'implication, dont on connaît la profondeur des combats qu'elle a su mener pour l'amélioration de la santé en Guyane, comme l'a dit Janie, est tout simplement le prolongement de toutes les actions, de tous les combats que nous avions déjà menés par le passé. Et j'espère que la présence de Madame Patricia Saïd à mes côtés sera un gage de responsabilité, sera un gage de sérieux dans l'engagement que nous prenons devant la population, que tout sera mis en œuvre pour que le système de santé continue sur la voie de l'amélioration qu'on lui a imprimée depuis mars-avril 2017 et que toute la Guyane va pouvoir profiter de son expertise, de son sens de la collaboration, de son sens de l'engagement pour faire en sorte, encore une fois, que notre parole collective soit davantage prise au sérieux. Alors, il y a eu des fonds de solidarité qui ont été mis en place, qui par la CTG, qui par les services de l'État en Guyane, avec une difficulté relative éprouvée par les petites entreprises à pouvoir fournir les papiers pour pouvoir y avoir accès, Mais cela étant dit, globalement, nous considérons que c'est une bonne décision qui a été prise en ce sens, mais qui arrive trop tard. Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà mis la clé sous le paillasson, il y a d'autres qui sont en train de se diriger de manière irréversible vers un dépôt de bilan. Mais encore une fois, j'ai plaidé la cause de ces TPE, j'ai plaidé la cause des restaurants, j'ai plaidé la cause des salles de sport pour dire à Monsieur le Préfet que s'il y a des chefs d'entreprise, des restaurateurs notamment, qui à un moment donné n'ont pas été très respectueux de la règle des normes sanitaires imposées, on ne devait pas pénaliser tous les restaurants, par exemple, parce que j'en connais beaucoup qui ont fait l'effort de respecter le système de protection mis en place. C'est pareil pour les magasins. Vous avez des magasins qui ne sont pas identifiés comme des commerces essentiels, qui voient passer 4 ou 5 clients dans la journée, des magasins de chaussures, des magasins d'alimentation, qui ont été obligés de fermer également parce qu'on leur a dit qu'ils ne sont pas essentiels. Et ce sont des petites structures qui ont été mises dans des situations extrêmement périlleuses, extrêmement dangereuses. Et je considère que là, il y avait peut-être un déficit de compréhension de la part des services de l'État, parce qu'on a eu beau expliquer, eh bien, ils sont restés sourds et aveugles à ces revendications, et je trouve ça vraiment dommage.
Alors, je vais vous surprendre, hein, si je vous dis que je vais mettre en place une filière de traitement des déchets, ou bien une filière de traitement de l'eau potable, ou bien une filière de traitement de la vase et de la boue qu'il y a dans nos rivières et dans nos mers en Guyane, peut-être que vous serez surpris. Parce que justement, je continue à dire à mes amis que la Guyane dispose d'atouts indéniables. La Guyane, par exemple, c'est le deuxième pays dans le classement mondial organisé par l'UNESCO du point de vue de sa ressource en eau douce, renouvelable et disponible par habitant. Ça, on ne le dit pas assez. À telle enseigne que quand il pleut, tous les Guyanais se fâchent contre la pluie parce que la pluie nous empêche de vaquer à nos occupations domestiques. Mais on n'arrive pas à se dire que la pluie, c'est le pétrole de demain et d'après-demain. Parce qu'il y a à travers le monde beaucoup de pays où les gens sont obligés de migrer pour aller vivre ailleurs parce qu'il n'y a plus d'eau chez eux. Dans ces temps où on assiste à ce phénomène de réchauffement climatique, on devrait pouvoir s'interroger de savoir quelle est la place que la Guyane pourrait occuper dans le cancer mondial, parce que l'accès à l'eau douce dans quelques années va devenir quelque chose de terrible. Est-ce que la Guyane ne devrait pas anticiper, ne pas attendre que le problème survienne, mais de se dire qu'on devrait anticiper sur ce phénomène pour que on soit véritablement à notre place d'excellence en la matière. Il y a des études qui ont été faites par le Conseil général de l'environnement et du développement durable qui est rattaché au ministère de la transition écologique et qui démontrait qu'en matière d'économie verte, la Guyane avait un potentiel extraordinaire sur la biodiversité de par la richesse faunistique, de par la richesse floristique. Est-ce que ces éléments-là ont été mis en place véritablement depuis qu'on en parle? Je ne crois pas. La Guyane a une biodiversité avec une multitude de plantes médicinales qui en font un territoire de pharmacopée traditionnelle extrêmement riche. Mais vous voyez, même dans le cadre de cette crise sanitaire, on nous a laissé le choix entre soit se faire vacciner, soit mourir. Moi, je continue à dire qu'il y a des aïeux, des grands-parents qui ont hérité d'un certain nombre de savoir-faire, hérité de la matrice africaine, hérité de la matrice sud-américaine, qui ont vécu en osmose avec les arbres, avec les herbes, avec les plantes, et qui nous ont enseigné un certain nombre de choses. Est-ce que on ne pourrait pas développer autour des plantes médicinales de la Guyane de véritables filières d'éducation, de formation pour hisser la Guyane en Silicon Valley de ces plantes médicinales, des plantes tinctoriales, des plantes aromatiques? On en a à profusion chez nous. Mais tout ça a été mis de côté parce qu'on nous a plutôt appris à tourner le dos à la forêt. On a tourné le dos à notre vase dont le docteur Henry disait qu'elle avait les mêmes vertus que celles qu'on utilise dans les centres de thalassothérapie à travers le monde. Nous, on a fait l'expérience quand on était petit. Après les piqûres de moustiques, on allait faire trempette à la pointe Buzaré. Au bout d'une heure, on ressortait avec une peau qui était comme un sous-neuf. Oui. Pourtant, ça, c'est des choses que nos parents nous ont enseignées. Mais nous n'avons pas été en capacité d'aller puiser véritablement dans ces savoir-faire et dans cet environnement qui est tellement propice à nous enrichir. Mais on est fâché parce qu'on n'a pas une mer bleue turquoise. Mais quand il y a une mer bleue turquoise, eh bien, il n'y a pas les matières en suspension, il n'y a pas les alluvions qui font qu'on a une mer qui est extrêmement poissonneuse. La pêche en Guyane, les poissons, les ressources halieutiques sont une richesse extraordinaire que nous n'arrivons pas à exploiter. Mais quand je vois ce que nos voisins brésiliens sont capables d'en faire, ceux-là qui viennent pêcher dans nos bouchures de Wanari, qui me montrent des chambres froides qui sont remplies de tonnes et de tonnes d'akupa pêchées dans les mers de Guyane, qu'ils vont exporter en direction, enfin pas exporter puisqu'ils sont sur le territoire brésilien, mais qui vont expédier en direction des grandes mégalopoles Rio de Janeiro, Brasilia, etc. Alors qu'on aurait pu avoir une filière pêche plus développée permettant de récupérer le poisson qui est dans les eaux de Guyane pour le transformer qui à Wanari, qui à Saint-Georges, faire des darnes, faire des filets, récupérer les vessies natatoires qui sont très prisées par les Chinois, par les Japonais. Il y a de quoi faire.
Mais le problème, c'est que on n'a pas réussi à laisser parler un cadre statutaire qui soit digne de ce que nous espérons. Parce que là aussi, c'est pareil. Vous me parlez de quelle filière, et puis, comme par hasard, je vais poser les deux pieds sur la question statutaire. Parce que lorsque l'Union européenne émet des directives sur la pêche illicite, sur la pêche illégale, etc., sur la nécessité de laisser du temps à la ressource pour qu'elle se renouvelle, ça part de bonnes intentions. Mais lorsque vous regardez comment ces directives sont appliquées sur le territoire de la Guyane, ben vous vous dites que nous sommes en total décalage par rapport à ce qu'on observe dans les mers du Nord. Il aurait fallu que la Guyane ait des directives, des lois et des règlements pour sa pêche, pour son agriculture, qui répondent véritablement aux besoins que nous avons identifiés. Alors, on a identifié des besoins. On peut très bien définir les voies et moyens qui vont nous permettre d'y accéder pour pouvoir avoir une industrie agroalimentaire de transformation qui soit digne de ce nom, et puis que par voie de conséquence on puisse par anticipation former les jeunes dans les filières qui soient adaptées, parce qu'on aurait vraiment mis le paquet sur des filières qui peuvent être porteuses de développement. Mais à chaque fois qu'on va avancer, eh bien on va buter sur un certain nombre de contraintes d'ordre réglementaire, d'ordre législatif qui nous empêche de voir le bout du tunnel. Et c'est pour cette raison que je dis, c'est pas à peine de se précipiter à vouloir inventer l'eau chaude, parce que d'autres l'ont déjà fait avant nous, mais il faudra vraiment se poser la question basique, de savoir est-ce que le contexte statutaire dans lequel nous sommes est propice à nous permettre d'avancer. La réponse que je fais, c'est non. Le contexte ne le permet pas. Alors quand je parle de contexte statutaire et de l'améliorer, il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne. Je ne suis pas dogmatique quand j'en parle, je suis simplement pragmatique. Je dis qu'il faut le cadre statutaire pour pouvoir avancer sur ces questions-là. Moi j'étais chef d'établissement dans le second degré, j'ai été proviseur de lycée professionnel, principal de collège, mais je voyais quand j'étais proviseur arriver des jeunes que nous formions, mais de manière mécanique dans certaines filières pour lesquelles on savait très bien qu'au bout du compte il n'y avait aucun débouché, il n'y avait aucune insertion possible. Et ces jeunes, j'étais vraiment désolé de les rencontrer quelques années après lorsqu'ils avaient la chance de travailler.
Comment ils remédient alors?
À œuvrer dans des secteurs d'activité qui n'avaient strictement rien à voir avec leur formation initiale. Alors je dis heureusement que dans la formation initiale, il y a la partie enseignement général, il y a la partie enseignement professionnel, et que de part et d'autre, on arrive à inculquer à ces jeunes un certain nombre de savoirs, un certain nombre de savoir-faire, qui de manière transversale leur permettent après d'aller dans d'autres directions pour lesquelles ils n'étaient pas nécessairement formés. Quand on est jeune, on a l'esprit très alerte, très agile, on passe de milieu à un autre, ça se fait très rapidement. Mais je veux dire, comment y remédier? Eh bien, c'est de faire en sorte qu'on arrête de faire comme ça des formations à l'appel. Alors on forme des secrétaires tout le temps, on forme des carrossiers automobiles tout le temps, on forme des gars en structure métallique tout le temps, et puis quand on les cherche après pour faire un bilan de leur insertion, on se rend compte qu'ils sont dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir avec ceux qu'ils avaient choisis. Alors très souvent, la question qui était posée, c'est avec quel argent? Avec quel argent on peut par exemple décider de faire pendant 2 ans, je prends n'importe quel exemple, une formation en mécanique moteur tourisme, et puis sur les 2 années après faire une formation sur les moteurs diesel? La question avait été posée, on nous avait dit c'était une question de financement, parce qu'on peut avoir les structures, on peut avoir les enseignants, par contre il faut l'argent pour avoir les structures. Donc moi je dis que effectivement tout ne se règle pas avec l'argent, mais l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, pour revenir au sujet qui nous intéresse, quand on voit une CTG qui vote un budget primitif à hauteur de 560 millions d'euros,
est-ce que vous estimez du coup que le budget de la CTG est suffisant?
Mais il est ric-rac et il est largement insuffisant. Ce budget-là ne pourra jamais répondre aux besoins de la population de Guyane. Le budget de la CAF en Guyane, son budget primitif, c'est 568 millions d'euros. La CAF qui distribue des prestations sociales, distribue plus d'argent, a plus d'argent que la CTG, qui doit s'occuper d'éducation, de formation, d'insertion, de tourisme, d'accompagnement des entreprises, de construction de collèges, de lycées, etc.
Mais effectivement, la liste des compétences est longue.
Mais c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Alors, souvent, je fais allusion à la comparaison que faisait le président de la CTG avec la Corse, parce qu'on nous a souvent pris la Corse comme exemple, mais la Corse, c'est quand même un budget primitif de 1 milliard 200 millions d'euros. La Martinique, je crois, c'est aux alentours de 780. La Guadeloupe, c'est de l'ordre de 900. avec une population qui n'est pas forcément plus importante que celle de la Guyane, avec un territoire qui est plus petit, avec des économies d'échelle qu'on peut facilement réaliser, qu'on ne peut pas réaliser en Guyane, compte tenu de l'immensité du territoire, compte tenu de l'éloignement des communes les unes par rapport aux autres. Il aurait fallu que la Guyane ait un budget primitif de 1,5 milliard d'euros à minima pour pouvoir répondre favorablement aux besoins de la population. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit que la première démarche quand on arrive, c'est de dire à l'État, il faut absolument quantifier la population pour la mettre à son juste niveau, pour qu'on ait les dotations de fonctionnement qui soient à leur juste niveau. Et puis, on a le projet aussi de réformer la fiscalité, parce que cet octroi de mer, nous considérons que c'est un impôt, c'est une taxe qui est injuste, qui est inique, qui ne permet pas d'aller chercher l'argent là où il se trouve, parce que l'économie de la Guyane, c'est entre 40 et 50% d'économie informelle, et cette économie informelle, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas vraiment assujettie au paiement de l'octroi de mer, en sachant par ailleurs qu'il y a moult rapports rédigés qui par le Sénat, qui par l'Assemblée nationale et par le CESE aussi, qui faisaient la démonstration que l'octroi de mer, c'est un impôt qui a vécu et qu'il faudrait le remplacer, le réformer et le remplacer par autre chose. Parmi les priorités que nous avons mises dans le programme, il y a un axe qui est fortement ancré sur la relation que nous entretenons avec l'environnement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait de liste à la Prévert, parce qu'on sait bien, là j'en suis à ma 8e campagne électorale, et je sais bien qu'en général, les électeurs ne prennent pas le temps de lire in extenso les programmes, donc nous n'avons pas voulu faire de programme exhaustif de liste à la Prévert, mais il y a une priorité qui est portée sur notre relation avec cet environnement qu'il faut préserver, qu'il faut exploiter de façon intelligente. D'ailleurs, nous avons dit que nous allons décréter l'urgence climatique sur le territoire de la Guyane. Alors lorsqu'on l'a dit comme ça, eh bien, il est évident que c'est un engagement très fort que nous prenons vis-à-vis de la population guyanaise, mais vis-à-vis du monde, parce que la Guyane n'est pas un petit territoire qui serait en orbite géostationnaire autour de la Terre, même si on lance également des fusées à partir de chez nous. Mais on le dit, nous allons décréter l'urgence climatique avec tout ce que ça peut impliquer comme posture, comme décision, comme choix de vie, comme choix de traiter la forêt. C'est vrai que lorsqu'on survole la forêt guyanaise au jour d'aujourd'hui, bon, on n'a pas le sentiment que c'est une forêt qui est dévastée. C'est pas une forêt qui subit un déboisement à outrance, parce que la Guyane, c'est que 84 000 km², mais je peux vous dire que 84 000 km², c'est beaucoup. Alors c'est vrai qu'on va voir des trouées dans la forêt. C'est des trouées qui sont la conséquence de l'orpaillage illégal, contre lequel je lutte. J'ai réussi à avoir auprès de l'Assemblée nationale une commission d'enquête parlementaire. Ça fait 3 mois que nous sommes en train d'auditionner un certain nombre de personnalités, de responsables politiques, et c'est vrai que ce que j'entends de la part des gouvernants me fait froid dans le dos lorsqu'ils me disent que la doctrine, ça n'est pas d'éradiquer l'orpaillage illégal, mais c'est d'arriver à le contenir pour pas qu'il se développe de trop. Moi, je dis souvent que si c'était en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne qu'on avait ce problème, il y a belle lurette qu'on aurait trouvé la réponse. Mais soyez assurés que même si on n'a pas mis en place un plan de reboisement des trouées, mais la relation que nous voulons que la Guyane entretienne avec son environnement est vraiment une relation d'amour, c'est vraiment une relation de respect, et c'est ça qui va nous permettre de hisser également ce territoire au rang de carrefour mondial d'excellence. Tout à fait.
De quoi sur la production de soja qui...
Mais la Guyane n'est pas encore arrivée à ce stade. Je crois qu'on a une forêt qui est relativement protégée, même si ça et là, je reconnais qu'il y a des mini-crimes d'écocide qui sont produits par la présence des orpilleurs. Les orpilleurs, ce sont ceux-là qui volent l'or du Guyanais. Je ne veux plus parler d'orpailleurs illégaux ou d'orpailleurs clandestins. Je parle d'orpilleurs, comme ça le mot il est très explicite. Mais notre équipe va s'attacher à faire ce qu'il faut.
Messieurs, je vais devoir vous couper. On va devoir clôturer cette interview. Merci beaucoup, Monsieur Serville, d'avoir été à nos côtés pour cette émission d'Entrevue Politique. Vous pourrez retrouver notre émission à la radio dès demain à 11h, 14h et 17h. Et n'hésitez pas à vous joindre à nous demain à 17h30 pour l'interview du dernier candidat aux élections territoriales. À très bientôt et bonne soirée à tous. Au revoir.
Bonne soirée.